Expériences que je fais. Elle le savait très bien. Ma position. Il m'avait dit, est-ce que vous ne viendriez pas leur montrer une autre position que celle de Merleau-Ponty? Et ça s'était passé chez lui. C'était très sympathique. Un séminaire qui se passait dans le salon du professeur. Ça avait un caractère plus intime. C'était une vingtaine. Je savais que tous étaient contre la distinction de l'âme et du corps. Donc tous ne comprenaient pas. Doit progressivement arriver à saisir ce qu'est l'âme et puis la coopération du corps. Alors une fois exprès dans la conversation, j'ai dit l'âme, j'ai vu tout de suite un sourire devant moi, une étudiante. Alors je me suis arrêtée et j'ai dit sans doute que ce langage ne vous plaît pas et que c'est un langage périlleux. Oh oui, c'est un langage complètement périmé. Alors, je lui dis, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est un langage périmé. Et je lui dis tout simplement, est-ce que pour vous, c'est différent de dormir ou de faire la philosophie? Elle n'a pas osé répondre. Alors, j'ai insisté, je dis, écoutez, est-ce que c'est la même chose pour vous, écouter un cours de philosophie ou dormir? Elle n'a pas osé répondre. Alors, je n'ai pas voulu insister. Et puis, sur le coup de minuit, Madame Thévenin, l'épouse du professeur Thévenin, est venue avec le thé et les biscuits. On avait suffisamment parlé pour avoir le droit à avoir un thé et des biscuits. Dès que le thé et les biscuits sont arrivés, la philosophie, la discussion philosophique a baissé de degrés. Alors, je me suis retournée vers elle et je lui ai dit, vous êtes aperçu que depuis, vous êtes en face de votre tasse de thé et à prendre ces petits biscuits, la discussion philosophique n'est plus tout à fait la même. Est-ce que c'est la même chose de faire de la philosophie ou boire du thé? Elle n'a pas osé répondre. Alors je dis, voyez, vous avez conscience au-dedans de vous-même que si vous me dites que c'est différent de dormir ou de faire de la philosophie, que c'est différent de boire du thé ou faire de la philosophie, vous avez conscience que dès que vous acceptez cette distinction, vous acceptez virtuellement qu'il y a en vous un principe radical de vie qui vous permet d'être éveillé et de faire de la philosophie. Et puis il y a un autre principe, conjoint à l'autre, très proche de l'autre pour certains, plus éloigné pour d'autres. Ça dépend du degré d'intelligence qu'on a. Alors évidemment, elle commençait un petit peu à comprendre. Oui, parce que quand l'âme est complètement enfouie dans le corps, je comprends qu'à ce moment-là, c'est difficile de discerner qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, à ce moment-là, elle a été suffisamment loyale pour dire, je devinais bien qu'il y avait un piège. Et qu'au fond, dire qu'il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps, c'était un a priori. Je croyais l'inverse, moi. Que c'était un a priori d'accepter la distinction de l'âme et du corps. Et par l'expérience, évidemment, de se réveiller et de dormir. Expérience que nous faisons tous les jours et quelquefois plusieurs fois par jour. Quand on assiste à des cours pas très intéressants, on se met dans l'attitude de la marmotte. Et on attend la fin du cours. Ça passe plus vite. Et on se réveille à la fin. Donc, quand on fait cette expérience d'être éveillé et de dormir, chaque fois, si on réfléchit, on dit qu'il y a nécessairement en nous quelque chose de plus radical que le sommeil. conscient et l'inconscient. Vous savez, comme Freud distingue. Et déjà, accepter le conscient et l'inconscient, c'est accepter une dualité. Dans notre vie, une dualité. Nous ne sommes pas simples dans notre vie. Et parce que nous ne sommes pas simples dans notre vie, il faut nécessairement qu'il y ait une certaine dualité. Alors, je commence tout de suite le sujet de ce soir. Nous avons vu comment on devait poser l'âme comme principe radical de vie. Et c'est comme ça que je définirai l'âme. Ce n'est pas une définition au sens absolu, mais c'est une précision. Le mot âme, je vous l'ai déjà dit, n'est pas un mot que les philosophes ont inventé. C'est un mot qui relève de traditions religieuses. La philosophie grecque l'a reçue par Platon de l'Inde. Faut jamais oublier ça. Avant Platon, on ne parle pas de l'âme. Et après Platon et Aristote, on revient à rejeter la distinction de l'âme et du corps chez les stoïciens. Et Breguet, qui est quand même un bon historien de la philosophie grecque, peut-être un peu vieux, puisqu'il est mort depuis un certain temps, mais qui reste quand même quelqu'un de sérieux. Breguet dit, en parlant des stoïciens, ils sont revenus à la première tradition grecque philosophique, pour bien nous faire comprendre que Platon et Aristote ont dépassé la tradition grecque sous l'influence de l'Inde. C'est très important de se rappeler ça, apologétiquement. Parce que quand vous êtes en face de certains qui refusent la distinction de l'âme et du corps, rappelez la tradition religieuse de l'Inde. Alors à ce moment-là, tout le monde accepte. Ça, c'est pas fait. Surtout les ecclésiastiques. Tout le monde accepte. C'est immédiatement. C'est l'Inde. Or, de fait, la distinction de l'âme et du corps provient chez Platon de l'Inde. Donc le mot âme n'est pas un terme que les philosophes ont inventé. Les philosophes ont essayé de comprendre si cette expression « l'âme » était quelque chose de mythique ou quelque chose de réel. Parce que dans les traditions religieuses, il y a des mythes qui se transmettent. Et le propre du philosophe, c'est dans ces traditions religieuses de voir ce que peut y avoir de mythique et ce que peut y avoir de réel. Vous voyez la fameuse, vous savez bien, une des plus anciennes traditions religieuses que nous avons sur le point de vue de la création. C'est la tradition colombienne, tradition religieuse colombienne, qui commence de cette manière. Au commencement était le canard et le soleil. Vous jamais oublier ça, c'est très important. Bien, c'est un mythe, ça, c'est évident. Mais pas dire que le premier, au commencement, il y avait un dialogue entre le canard et le soleil. C'est tout à fait un mythe, ça. Et le philosophe dit, c'est un mythe. Parce que dans les traditions religieuses, il y a des mythes qui sont de purs mythes. Mais dans les traditions religieuses, il y a quelquefois des symboles qui correspondent à une réalité. Et dans les traditions religieuses, quand on parle de la distinction de l'âme et du corps, le philosophe, comme Platon, essaie de montrer que ce qui est pleinement réel, ce n'est pas le corps, mais l'âme. Puisque le corps est comme le tombeau de l'âme. Et donc le corps alourdit l'âme et empêche l'âme d'avoir des ailes et de contempler. Aristote reprendra la distinction de Platon en montrant que le corps n'est pas quelque chose qui s'ajoute de l'extérieur. pas accidentelle entre l'âme et le corps. L'âme apparaît donc comme un principe radical et fondamental de toutes mes opérations vitales. Or, quand je regarde la diversité de mes opérations vitales, je m'aperçois qu'il y a une très grande diversité. Finalisé. dépendent du conditionnement physique dans lequel vous trouvez. La nourriture, il faut pouvoir la porter à la bouche. Vous la mangez. Ce qui détermine votre repas, il faut que ce soit tout proche. Si c'est très loin, votre confiture qui est dans l'armoire. Je sais qu'il est dans l'armoire, mais tant qu'il n'est pas tout près de moi, je ne peux pas le goûter, cette confiture. Je ne pourrai pas me nourrir. Je dépends donc du temps et de l'espace. Je ne peux pas me nourrir pour 8 jours. C'était Richelieu qui récitait son office. Pour 2 jours, vous ne pouvez pas faire ça pour la nourriture. Ce serait bien commun, ce matin. Le dimanche, je me nourrirai pour toute la semaine. Les chameaux font ça, paraît-il, n'est-ce pas, pour des grandes traversées, mais nous n'avons pas un estomac de chameau. Et nous ne pouvons pas faire ça pour 8 jours. Vous êtes obligé de prendre un certain rythme. Certains arrivent, on sait très bien. Certains peuvent, après un très bon repas, passer un peu de temps. Et d'autres, au contraire, sont obligés, s'ils sont plus fragiles, de faire plus attention. On est déterminés dans ce domaine-là. D'autres opérations. Alors, elles reçoivent des déterminations beaucoup plus variées. On est déjà beaucoup plus libre par rapport à l'espace et le temps. Et quand je vois, je suis très libre, c'est l'horizon. Et je vois des quantités de détermination qui ne sont pas moi. Donc ces déterminations, ma connaissance, ne sont pas du tout données. J'ai donc là quelque chose qui est au-delà du conditionnement du temps et l'espace. Quelque chose qui permet de dépasser certaines déterminations. Enfin, quand je pense et quand j'aime au plan spirituel, je vois que je peux même déterminer ma finalité. Je choisis des amis. Choisir des amis, c'est choisir son milieu dans lequel on pourra connaître un certain bonheur. Pas faire du tout la même chose pour mes sens et pour mes connaissances sensibles. Et donc là, une liberté encore plus grande. Vous voyez, on peut progressivement déterminer une autonomie vitale plus ou moins grande d'après ce qui détermine mes diverses opérations. En analysant ma connaissance, en analysant un acte de volonté, un acte volontaire, en analysant ma connaissance sensible, ma vision, mon toucher, en analysant mes opérations de nourrir, me nourrir ou de dormir, je vois que l'autonomie vitale est très grande dans les opérations de l'intelligence. Beaucoup moins grande dans les opérations de sommeil, de nourriture, et entre deux, tout l'aspect sensible. De sorte que si je critique, et là il y a tout un aspect critique, de réflexion critique, sur ce qui détermine mes diverses opérations vitales, je vois que je suis de plus en plus libre à l'égard de ces déterminations. Et que d'une certaine manière, je peux moi-même donner mes propres déterminations. Un artiste se donne ses déterminations pour réaliser telle chose. Alors que vous ne pouvez pas faire ça lorsqu'il s'agit de vous nourrir. Votre estomac a une certaine latitude. Mais il est quand même, surtout s'il est fatigué, beaucoup plus déterminé. C'est à partir de là, la vie anima, la vie de l'esprit. 3 degrés de vie qu'Aristote a déterminé d'une manière très forte, et là, il y a une originalité de la pensée d'Aristote, comparativement à celle de Platon. Parce que pour Platon, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est la vie de l'esprit, la vie sensible. Je sais très bien qu'au début de la vie de Platon et au terme de la vie de Platon, la vie sensible prend un aspect toujours plus important, peut-être sous l'influence de son disciple Aristote. C'est très possible. Au début, Platon méprise souverainement la sensibilité et les sensations. C'est simplement pour nous réveiller. Mais ça ne sert à rien pour déterminer notre vie intellectuelle. Tandis qu'au terme de sa vie, Platon est beaucoup moins affirmatif. Et c'est très drôle. Platon deviendra de plus en plus réaliste. Avec même un manque de critique au moment de la République. La République représente le grand feu d'artifice platonicien. Et immédiatement après, le Parménide critique. Ça, c'est la position de Platon. Donc, pour Platon, il n'y a qu'un seul degré de vie vraiment humain, la vie spirituelle. Pour Aristote, il y a au contraire 3 degrés de vie. La vie végétative, par où nous sommes semblables aux plantes, et en même temps très différents. Nous sommes une belle plante. C'est vrai, on le dira de temps en temps. C'est une belle plante. Un magnifique cèdre ou un magnifique bouleau. Des gens extraordinairement élevés. D'une élégance comme un bouleau. D'autres, au contraire, c'est des cèdres blancs. De l'espace. C'est vrai qu'il y a une parenté de notre vie végétative avec la vie des plantes, notre vie biologique. Une parenté. Et puis nous avons une parenté avec la vie animale. Donc c'est bien évident, c'est encore beaucoup plus net. Regardez un chien avec son maître, il y a des complicités. Regardez un chien quand vous lui présentez un morceau de sucre. Regardez un chien quand vous l'avez bien dressé dans l'irascible. Un chien qui mord, il vaut mieux pas être mordu par lui. C'est quand même une expérience d'être mordu par un chien. On sent à ce moment-là ce qu'est l'irascible du chien. C'est la première expérience que j'ai faite à Fribourg. D'avoir été mordu par un gros chien énorme. Et en regardant, je voyais qu'il y avait des gens qui regardaient. Je lui ai tout de suite demandé si ce chien appartenait aux personnes qui étaient là. C'était mon Laurent Didier qui m'a dit « Oh oui, c'est le chien du patron. Il est anticlérical. » Et il m'a tout de suite dit, ne vous inquiétez pas, il est assuré. Alors j'ai jamais gagné tant de ma vie, parce que mon instant de morsure du chien, tout de suite, on m'a versé une grosse somme d'argent en Suisse. Mais voilà, évidemment, il fallait que je passe au médecin pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Puis remplacer ma chambre qui était déchirée. À part ça, la grosse somme était assurée. Alors, la seule chose, j'ai dit, mais ça m'avait perdu 1, 2 heures pour faire tout ça. Il me dit, quelle profession avez-vous? Il me dit, je suis professeur. Ah, alors votre temps ne compte pour rien. J'aurais été maçon, sans répondre. Mais votre temps ne compte pour rien. Parce que vous avez pu réfléchir tout en étant mordu. Donc ça ne compte pour rien. C'est la première expérience que j'ai eue. Mais c'était avec la banque. C'est ce qui devait exister. Avoir la banque tout de suite, le chien assuré. C'est vrai que les chiens ont un irascible et un concupiscible. Les chats, l'irascible des chats et le concupiscible. C'est vrai qu'on est apparentés à ces animaux. Vous en avez bien ça. Toute notre vie passionnelle est une vie animale. Et puis il y a une vie spirituelle, propre à l'homme. Alors si vous voulez, nous allons à partir de là étudier philosophiquement ces trois degrés de vie. Aujourd'hui, la vie végétative. Faut commencer par le plus bas. Et je crois que philosophiquement, il faut toujours commencer par le sous-sol de notre vie végétative. Très très important. Parce que c'est très important d'avoir une vie végétative qui soit normale.
Et dans votre vie.
sympathie. Ça, c'est bien connu. On voit ça dans la vie religieuse d'une façon remarquable. Un noviciat qui développe la vie spirituelle fait que la vie végétative en prend un gros coup. Si on fait sérieusement son noviciat, on maigrit.
Seront très attentives à la respiration. Nous sommes pauvres.
fait naturellement. Vous allez me dire, oui, c'est très vrai, ça se fait naturellement. Quelquefois, il y a eu des obstacles et qui fait qu'on respire plus. Et tout s'en ressent. Puisque c'est la première assimilation. Vous voyez, la voix dépend de la respiration. Alors il peut y avoir d'autres obstacles, c'est évident. Mais la voix dépend de la respiration. Un lien entre la respiration et la voix. La respiration et la nutrition. La nutrition, c'est l'aliment. Je voudrais faire aujourd'hui une philosophie de l'aliment. Voir qu'est-ce que c'est que cette philosophie de l'aliment comme la respiration. C'est très important, ça. C'est parce que c'est fondamental dans notre vie humaine. C'est le fondement. Alors, si le fondement est un peu abîmé, tout s'en ressent. Ça, c'est sûr. En fait, il faut le vite. La nutrition se nourrit l'aliment qui est extérieur à nous et qui va devenir nous-mêmes. Alors, il faut bien comprendre que cette assimilation au niveau de la vie biologique est une assimilation substantielle. Ça qui est très curieux. En ce sens que l'aliment ne garde rien pour lui. Il est entièrement relatif à celui qui s'en sert. D'où évidemment nous cuisinons normalement. Que l'aliment est cuit, que l'aliment est préparé pour permettre que ce soit un petit peu plus agréable, un peu pimenté. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la vie végétative, comprenez bien. Ça, ça regarde l'arbre. Ici, je regarde la vie végétative en elle-même. Se nourrir.
Il a plus assimilé ce qui était vraiment assimilé.
Il faut au contraire l'arrêter. Ensemble, ça m'intéressait d'entendre tout ce qu'il me racontait. c'est vrai, l'homme rend toujours un problème qui est extraordinairement intéressant, parce que ça fait partie du vivant. Comment la semence peut-elle devenir un grand arbre, le gland? Regardez un gland, coupez un gland.
Étonnant, ça dépassait
ce qu'on voit habituellement. C'est la qualité. Je suis le vivant, le vivant exprime la qualité. Et le vivant met en pleine lumière la qualité dès le domaine de la vie végétative. Je crois qu'on peut dire, et au plan philosophique, que la vie végétative, c'est la victoire de la qualité sur la quantité. De voir comment, dès le moment de la conception, jusqu'au moment de la perfection, il y a une unité qualitative du vivant. Donc la croissance, c'est l'apport quantitatif qui vient de l'extérieur et qui permet au vivant de garder un développement homogène qualitativement, qui fait que c'est le même vivant et c'est une qualité unique dans ce développement unique. Nous avons ensuite, au point de vue de la vie végétative, troisième opération caractéristique de la vie végétative, la procréation. C'est la troisième opération de vie. Prendre cela. Nous avons trois types d'opérations très caractéristiques et qui sont tout à fait fondamentales. La nutrition, la croissance, parce qu'au bout d'un certain temps, la croissance est arrêtée et la nutrition continue. C'est bien évident. Et puis, la procréation, la génération. Seul le vivant parfait est capable d'engendrer. C'est la vieille affirmation des philosophes, et qui reste toujours vrai, ça n'a pas changé. Seul le vivant parfait engendre. La procréation représente cette qualité particulière de la vie végétative, de devenir source d'un autre vivant. Cette chose curieuse chez les vivants parfaits, que la procréation implique deux vivants, le mâle et la femelle, l'homme et la femme, un seul pour les vivants parfaits, parce que pour les vivants inférieurs c'est différent, un seul ne peut pas être source de vie pour un autre, ce qui montre bien que la perfection unique sexe masculin et féminin. Pour qu'il y ait comme une unité radicale, fondamentale de l'individu qui rejoint l'espèce, c'est peut-être la chose la plus extraordinaire. L'individu qui se nourrit, c'est un individu. Quand je respire, c'est moi, individu. Quand je mange, c'est encore mon individualité. Évidemment, j'essaie de manger avec des amis, parce que c'est mieux. Quand on voit, vous savez, attabler quelqu'un seul, en face de son gros beefsteak, en face de son vin de qualité. Alors on voit le gourmet, ça c'est autre chose. Vous voyez, on touche tout de suite l'aspect moral. Et c'est très vrai que c'est l'individu qui se nourrit. C'est l'individu qui grandit. Quand ils sont deux jumeaux, ils grandissent en même temps, semblablement, quand ce sont deux vrais jumeaux. C'est même très curieux. Quand ils ne sont pas deux vrais jumeaux, on s'aperçoit tout de suite que dans l'ordre de la croissance, c'est différent. Et lorsqu'il s'agit de la procréation, ce sont deux individus qui doivent s'unir pour être une source de vie. Ce qui montre là que la perfection de l'individu ne rejoint jamais l'espèce. Mais contrairement à ce que dit Jean-Jacques Rousseau, vous savez bien cette déclaration dans les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, quand Jean-Jacques Rousseau dit « Regardez-moi bien, je suis les hommes. C'est fou. Au niveau végétatif, c'est faux. Aucun individu n'est adéquat à l'espèce. Au niveau de la vie végétative, si l'individu était adéquat à l'espèce, il pourrait être source de vie pour un autre. Or, il ne l'est pas. Il faut qu'il soit deux. Et c'est la conjonction des deux qui va être source de vie. La procréation, hein, au plan philosophique. Parce qu'il faut penser la procréation au plan philosophique. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Qu'un vivant, deux vivants, soit source d'une nouvelle vie. Tout est repris à la racine. Comprenez ça. Vous ne pouvez pas le comprendre. Et le biologiste ne le comprend pas. Impossible à comprendre. Que tout est repris à la racine. Oui, prenez le petit exemple très simple du grain de blé. Alors là, il est unique, puisqu'on est en face d'une vie végétative très élémentaire, où le grain de moutarde, si vous aimez mieux, puisque c'est plus évangélique. Les deux sont évangéliques. Le grain de blé et la moutarde. Alors, le grain de blé plongé en terre qui est source d'une quantité d'autres grains de blé. Hein? Source de plusieurs. Mais ça ne s'explique pas. Hein? C'est la vie. C'est ce que vous direz. C'est la vie. Alors, oui, mais la vie, qu'est-ce que c'est ça? Cette vie végétative qui est capable d'être source non seulement d'un nouveau grain de blé, mais qui est source de plusieurs grains de blé. Et c'est la même espèce, hein, c'est la même détermination. On pourra peut-être modifier un tout petit peu par certains aspects, mais au fond, c'est le même, la même espèce qu'on retrouve, mais multipliée. Il y a là quelque chose qui, dans le langage de Gabriel Marcel, dirait qu'on touche à un mystère philosophique. On l'explique pas, on le constate. Et ça fait comprendre que le vivant est source d'autres vivants. Il est cause d'autres vivants. Il a en lui quelque chose qui est extraordinaire, une potentialité. Une virtualité qui fait qu'il est source d'un autre. Alors ce n'est plus, vous voyez, c'est ça qui est très différent. Dans l'aspect de la croissance, on prend la quantité de l'extérieur pour lui donner une nouvelle forme. Là, c'est quelque chose de très nouveau. C'est que l'aspect qualitatif du vivant devient source d'autres qualités. Et quelquefois, ça peut se passer, ça peut se faire, que l'enfant est plus parfait que ses parents. Il est plus parfait d'ordre végétatif. Il a une vitalité plus forte. Alors évidemment, vous allez dire, l'âme est créée par Dieu. Oui, mais je prends en plan proprement végétatif. Donc il y a là un mystère dans la vie végétative. Vous n'expliquez pas la vie végétative, philosophiquement parlant. Vous l'expliquez encore beaucoup moins, au point de vue biologique. Vous pourrez mesurer, vous pourrez préciser les circonstances particulières dans lesquelles se fait la procréation. Mais vous n'expliquez pas ce qu'il y a de fondamental. Qu'un être devient source d'un autre être. Les anciens, quelquefois, avaient du bon parce qu'ils étaient moins positivistes que nous. Et donc, ils étaient plus admiratifs. Les anciens, grecs, les néoplatoniciens, et Aristote lui-même, disent qu'il y a dans le vivant quelque chose d'éternel. propre création, il est victorieux de la mort. Et que la procréation d'un être nouveau qui recommence à partir de rien est comme l'image de l'éternité. C'est très beau. Je crois qu'on peut le dire. C'est qu'on voit que la vie a en elle-même quelque chose qui n'accepte pas la correctibilité. L'individu est correct. Mais l'espèce ne veut pas l'être. Et l'espèce est toujours réalisée dans les individus. Il y a quelque chose là qui est extraordinairement intéressant qu'il faudra essayer d'expliquer au point de vue philosophique. Parce que nous voyons dès le point de départ dans la vie végétative, déjà chez les animaux. Chez les animaux, la génération est ce qu'il y a de plus parfait. Ce qu'il y a de plus parfait dans la vie végétative, c'est d'être source d'autre vie. C'est pour ça que le philosophe dit, et c'est aussi très intéressant, quand il étudie les générations et les corruptions des animaux, et qu'il essaie de comprendre la diversité de modalités de reproduction de l'animal, il nous dit que c'est toujours le point de vue de la génération qui caractérise le mieux telle ou telle espèce vivante. C'est pas étonnant, puisque on touche là le sommet du vivant. Dans l'ordre de la vie végétative, la procréation apparaît comme le sommet. C'est l'opération